Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et la CPME présentent Impact PME. Les experts se mobilisent avec Philippe Bloch.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale PME, bien sûr dans le cadre de cette journée Impact PME, avec 10 experts, 10 professionnels à mes côtés pendant une heure, avec lesquels on va explorer une large palette de solutions pour essayer de faire face aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs, qu'ils soient de TPE ou de PME, dans cette période exceptionnelle. Et comme le temps presse, on attaque tout de suite avec mes 3 premiers invités. J'ai le plaisir d'en avoir 2 sur le plateau et 1, j'espère qu'on le voit déjà dans un écran, on va l'accueillir tout de suite. Ah, tiens, je vais commencer par lui, par Pierre Goguet, qui est président de CCI France et qui nous rejoint via Skype. Bonjour Pierre, est-ce que vous nous entendez bien ?
Parfaitement, bonjour à tous.
Eh bien, bienvenue sur ce presque plateau sur lequel je suis entouré de Isabelle Saladin. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Isabelle qui est présidente des rebondisseurs français et d'IS Advisor. Je vous dirai dans un instant ce que sont ces deux entités qu'elle représente. Et puis, on a un représentant de l'APEC en la présence de son directeur général adjoint, Philippe Dialinas. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
On va parler bien sûr des cadres et de leur état d'esprit en ce moment, je le répète, dans cette période. Très spécial. Et alors justement, c'est intéressant parce qu'on va démarrer par le rebond, puisque tout le monde ne parle que de rebond, le futur rebond, préparer le rebond, etc. C'est en grande partie d'ailleurs l'objectif de cette émission Impact PME. Isabelle, vous êtes un entrepreneur,
oui.
Serial entrepreneur, vous avez déjà créé 3 fois et vous êtes la cofondatrice en fait d'une association qui sont les rebondisseurs français, créée par 4 de vos copains entrepreneurs. Votre histoire, c'est que vous rentrez des États-Unis à un moment et vous dites pourquoi est-ce que la France n'aime pas l'échec et pourquoi on ne valorise pas le rebond, dont vous considérez que c'est une richesse.
Bah, c'est une grande richesse. En fait, en tant que chauvine, et je dois l'avouer,
j'ai chauvine été... américaine ou
chauvine française.
Non, parce que vous avez passé...
non, très bien, je n'ai rien contre les Américains.
Vous avez passé un tiers de votre vie aux États-Unis, je le précise quand même.
Exactement.
Ça façonne un mental.
En fait, j'ai toujours été surprise de voir que dans un autre continent que le mien, cette valeur de l'échec, en fait, c'est même pas un sujet l'échec, la valeur du rebond, la façon de rebondir, était considérée comme une valeur économique incroyable. Les entrepreneurs qui rebondissent à chaque expérience sont dragués par toutes les entreprises pour être embauchés, là où nous, on est plutôt montré du doigt, on a plutôt honte, et en fait, on ne met pas cette valeur économique majeure, cette expérience, en fait, le rebond est égal à l'expérience, en route pour relancer la machine. Et il n'y avait pas le Covid à l'époque.
Est-ce que ce n'est pas un problème de terminologie ? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas parler de rebond que d'échec, finalement, pour institutionaliser ce qu'on apprend de ce type d'expérience ?
Vous prêchez une convaincue, l'échec, c'est juste un détail de ne pas réussir.
Oui.
Tout l'intérêt et tout l'important, c'est le rebond. C'est comment on rebondit, ce qu'on a pris comme expérience et comment on s'en sert pour la suite.
Alors, vous êtes soutenu en fait par une grande mutuelle qui
oui.
est en fait qui appartient au groupe Vive, qui est Harmonie Mutuelle, qui est la mutuelle, je crois, des entrepreneurs et des entreprises au sein du groupe Vive. Qu'est-ce que vous proposez et qui fait quoi ? Puisque vous êtes déjà à peu près 900 membres, vous n'arrêtez pas de grandir en plus en ce moment.
En deux ans et demi, c'est vrai qu'on a été surpris quand on a créé ça. Et je vous cache pas, le soir et le week-end, en plus de nos entreprises, on n'a pas.
Oui, parce que vous êtes bien sûr, IS Advisor, c'est votre autre entreprise.
Et en fait, on a été très très surpris d'avoir déjà une communauté de 900 entrepreneurs de tout type, c'est-à-dire entrepreneurs indépendants, TPE, PME.
Qui ont échoué ou pas qui ont échoué ?
Pas forcément.
Qui veulent juste aider ?
Qui veulent surtout anticiper. On l'a remarqué,
d'accord.
Là, on a connu plus de 200% d'adhérents de ces 6 derniers mois, la crise de Covid sûrement oblige.
Oui.
Et en fait, la majorité n'étaient pas des entrepreneurs qui voulaient rebondir après un échec ou après un non-succès, mais des entrepreneurs de tout type qui voulaient anticiper. C'est-à-dire, ok, je sais que ça va être dur.
Anticiper.
Ça veut dire qu'on ne va pas se mentir et qu'on sait très bien que 2021 va être une année...
Où il y aura des douleurs.
Où il va y avoir des douleurs. Si on ne peut pas dire année noire pour être politiquement correct, on va dire que ça va être très compliqué 2021.
Et qu'est-ce qu'on leur apporte ? Parce que ça veut dire quoi anticiper ? Quels sont les outils de l'anticipation ?
La première chose, on leur apporte déjà de la proximité. Parce qu'avec Harmonie, on est partout en France. Ce n'est pas quelque chose de parigo ou très parisien centré. C'est partout en France. Et on les soutient dans les bons et les mauvais. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vient chercher en fait chez les rebondisseurs ? Un, c'est de pouvoir parler avec des pairs et s'entourer des pairs. Parce que la pire chose dans les moments, et là je l'ai vécu,
c'est la solitude.
C'est la solitude.
Et le déni peut-être aussi, de ne pas pouvoir en parler.
C'est surtout la solitude et l'ego. Je pense qu'il y a un sujet au niveau de l'ego dans notre culture, on ne va pas se mentir. J'en ai fait les frais à titre personnel.
Il y en a en ce moment aux États-Unis qui a un problème d'ego par rapport à son futur rebond, effectivement.
Comme quoi la roue tourne, hein, chacun a les
peut-être
mêmes.
Peut-être qu'on pourrait lui donner ses coordonnées des rebondisseurs français. Peut-être, il y aura peut-être les rebondisseurs américains.
Ben, pourquoi pas. Mais la première chose, c'est vraiment échanger avec des pairs, c'est se faire accompagner. C'est pas que des blabla, en fait. Moi-même, je le fais, en fait, dans mon entreprise. Donc, c'est vraiment du concret. Et trouver des outils comptables, des outils financiers, des outils juridiques qui sont gratuits en fait au sein des rebondisseurs, parce qu'on a beaucoup négocié avec quelques partenaires et on sait lesquels sont importants pour rebondir, on sait lesquels peuvent être des freins et on met tout ça en place au sein des rebondisseurs.
Toute taille d'entreprise est concernée.
Toute taille d'entreprise est concernée.
C'est qu'ils ont une expérience commune, à un moment il faut se réinventer.
Ils font le même job, donc on va on va partager et on va aller de l'avant ensemble.
On dit très vite un mot de IS Advisor qui est sous-titré entrepreneur copiloting entrepreneurs. Ça veut dire quoi ça?
C'est bien regardé. C'est un concept en fait qui ça vous fait rire, anglo-saxon que j'ai apporté en France. Encore une fois, je les trouve très pragmatiques, pas plus intelligents que nous, mais beaucoup plus pragmatiques. En fait, c'est une entreprise qui est composée uniquement, alors de serial entrepreneurs, on va éviter le mot galvaudé très marketing, mais de personnes qui ont créé de zéro plusieurs entreprises, qui ont mis les mains dans le cambouis, qui ont tout connu. Il y a des hauts, des bas, on sait très bien ce que c'est que la vie d'entrepreneur. Et qui aujourd'hui, qui ont vendu leur actif, mettent leurs compétences avec les chefs d'entreprise d'aujourd'hui pour passer les vagues. Que ce soit une vague de fusion-acquisition, une vague de pivot de modèle économique, une vague de structuration, en connaissance de cause, de savoir ce que c'est.
Merci Isabelle Merci Saladin. Vous. Je me tourne vers vous, Philippe Dialinas, par rapport à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Rappelons peut-être, à ceux qui connaissent peut-être le nom, mais s'ils n'y ont pas encore fait appel, en quoi consiste l'activité de l'APEC?
Alors l'APEC, elle a plusieurs missions. La première, c'est d'accompagner en particulier les entreprises, en particulier TPE, PME, à recruter, à optimiser leur recrutement et leur gestion de leurs talents internes, de leurs compétences. La deuxième mission, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés tout au long de leur parcours professionnel,
tout au long de leur vie. Pas uniquement quand on cherche son premier job, etc.
On peut être aussi actif salarié et se poser des questions sur un projet d'évolution professionnelle. L'APEC est opérateur du conseil en évolution professionnelle.
Bien sûr.
En ce sens, donc effectivement, ça touche aussi les actifs salariés et évidemment l'insertion des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur.
Alors, elle a des clients parce que les entreprises sont clientes de l'APEC.
Oui, tout à fait.
Et des individus clients. Aussi. On peut être client à titre particulier également ou c'est un service gratuit ou payant?
C'est un service gratuit aujourd'hui. Tous les cadres cotisent ainsi que les entreprises qui recrutent et qui ont des cadres dans leurs effectifs.
Alors, vous êtes un fabuleux observatoire de l'état d'esprit des cadres. Comment évolue-t-il? Je sais qu'il y a une étude récente dont vous nous avez apporté quelques chiffres qui montrent quand même que globalement, ils sont inquiets pour la sécurité de leur emploi.
Il y a 30% qui sont...
Peut-être faudra-t-il qu'ils se préparent, comme le rappelait Isabelle, à envisager un éventuel rebond.
Il y a 30% qui sont très inquiets par rapport à la situation économique de leur entreprise. Et puis, ça a eu pour effet aussi que... Finalement, les projets d'évolution professionnelle, les réflexions de projets d'évolution, de projets de vie aussi...
Ils sont stoppés.
Suspendus. Ouais. Donc, ce qui fait que les cadres actifs salariés aujourd'hui en poste, ils sont inquiets, mais en tous les cas, par prudence, par précaution, ils restent dans leur emploi et ils ont suspendu leur projet.
En termes d'âge, est-ce qu'il y en a des plus inquiets que d'autres?
Les seniors sont beaucoup plus inquiets, évidemment, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont une crainte de perdre leur emploi actuel par rapport à la situation économique de leur entreprise.
Il y a une dimension psychologique dans ce qu'apporte l'APEC, parce qu'on voit bien que de plus en plus on commence à être inquiet pour la santé mentale des Français confinés, pour la santé mentale des entrepreneurs qui sont dans l'angoisse de peut-être perdre leur entreprise. Est-ce que là-dessus vous avez des actions ou pas au sein de l'APEC?
Et déjà l'écoute. L'écoute, le conseil, la proximité. Aujourd'hui, l'APEC est majoritairement en délivrance de services à distance. Nos collaborateurs sont en télétravail. Mais nous sommes aussi ouverts pour les personnes qui en ont le plus besoin de proximité, d'écoute. Il ne faut pas rester seul dans ces moments-là. Il faut partager, il faut être à l'écoute du marché, il faut être conseillé. Et donc ça, c'est important.
Vous m'avez également donné quelques chiffres sur les secteurs qui embauchent peut-être plus que d'autres. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots justement actuellement? Parce que d'abord, est-ce qu'on continue à embaucher en ce moment ou est-ce que c'est comme en matière du marché immobilier, on dit que les visites sont arrêtées? Est-ce que les embauches sont arrêtées ou pas en ce moment?
Alors, on a actualisé les prévisions d'embauche pour 2020 en septembre. Effectivement, c'est une baisse historique. Moins 40% de prévision d'embauche par rapport à 2019. Alors 2019 était une très belle année en termes de dynamique de marché.
Donc il faut relativiser.
Mais c'est la brutalité qui est nouvelle et qui est historique.
Et puis, l'incertitude, c'est probablement ce qui est notre pire menace et notre pire cauchemar du matin en ce moment. J'imagine que pour les cadres, sur leur carrière, c'est terrible de n'avoir aucune idée de ce qui peut se passer dans les quelques mois, voire semaines à venir.
Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est le bon moment aussi de réfléchir. C'est-à-dire que, paradoxalement, on a des cadres qui, pour un tiers d'entre eux, envisagent une évolution professionnelle dans l'année qui vient, c'est-à-dire 12 mois. Et ça se prépare, et c'est le bon moment, évidemment, de réfléchir, de s'informer, éventuellement de se former, de mobiliser son compte personnel de formation.
Absolument.
Juste avant, effectivement, d'avoir un conseil d'évolution professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cadres qui sont dans des secteurs qui vont éventuellement s'effondrer, et l'idée c'est de se dire, aujourd'hui, vu mon parcours, vu mes compétences, où je peux me projeter, vers quel autre secteur, vers quel autre métier je peux me diriger, et ça se travaille, ça s'étudie et ça se prépare. C'est ce que je vais appeler la transférabilité des compétences. Alors évidemment on parle des soft skills,
partout, soft skills,
voilà,
partout,
mais partout, ça partout. C'est des choses qui sont importantes, et des compétences qui sont transférables d'un métier à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc oui, il y a des secteurs qui vont s'effondrer, mais il y en a d'autres effectivement qui vont émerger. Aujourd'hui il y a des entreprises, pour répondre à votre question, qui recrutent,
ouais,
et paradoxalement qui ont des difficultés à recruter.
Bah, comme avant, 10, comme avant Covid.
Comme avant, tout à fait.
Ça reste depuis longtemps. Je vais me tourner vers Pierre Goguet. Juste une rapide réaction d'Isabelle Saladin. Est-ce que rebondir, savoir rebondir aujourd'hui, c'est un soft skill ?
Ah, c'est un grand soft skill. On appelle ça la résilience, je crois.
Oui, c'est le mot du moment.
C'est le mot du moment. Mais en fait, c'est assez basique. Oui, c'est prendre les choses telles qu'elles viennent, comment on analyse et comment on passe à l'étape d'après.
Pierre Goguet, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, toujours.
Vous nous écoutiez. Je suis ravi de vous retrouver, puisqu'on a déjà été ensemble dans une émission Impact PME il y a de cela quelques semaines, où je vous avais posé un petit peu la question de savoir comment les chambres de commerce, dont on sait qu'elles accompagnent beaucoup, beaucoup les entrepreneurs à la création, mais aussi tout au long de leur vie, en ce moment sont mobilisées justement pour favoriser ou permettre ce fameux rebond qui est le mot du moment. Où en est-on, même par rapport à il y a quelques semaines où on s'est rencontrés ? Quel est l'état d'esprit, tel que vous le percevez, de votre propre observatoire que sont les chambres de commerce françaises ?
Alors écoutez, il y a eu deux étapes. Une étape au moment de l'annonce du plan de relance de ces mesures, même si quelque part elles sont conditionnées par exemple le vote de la loi de finances, on a vu remonter évidemment la confiance des entrepreneurs, parce que ce plan de relance, faut bien le dire, est assez puissant, a sorti de nombreuses mesures, et on a une enquête qui montrait que plus de la moitié des entrepreneurs, finalement, ça leur a redonné confiance, un peu de visibilité. Ça, c'était avant le reconfinement. Et le reconfinement est tombé là-dessus, et je vous avoue qu'alors même que l'on était évidemment engagé dans un plan de relance avec des volumétries importantes, puisque par exemple, sur les trois chantiers essentiels qui nous ont été donnés en priorité, à savoir la transformation numérique, l'écologie, l'entreprise en difficulté, et puis un focus sur l'industrie, sur ces trois chantiers-là, quelque part, on en avait réalisé un complètement avant le confinement, à la demande de la ministre, qui est d'appeler plus de 30 000 entreprises industrielles et de les accompagner, ou plutôt de leur mettre en avant les atouts du plan de relance. Plus de 6 000 d'entre elles, d'ailleurs, doivent aujourd'hui, ont choisi des outils pour qu'on les aide à les accompagner, mais tout ce que l'on avait fait en diagnostic numérique, etc., est finalement bousculé par l'urgence de la situation aujourd'hui, où en fait on vient de diffuser, plutôt qu'un diagnostic numérique, etc., qui en réalité existe toujours, un véritable SOS numérique commerce, avec quelque part un kit minimal de survie pour les commerçants qui, notamment, ne s'étaient pas approprié ces outils. Comment faire vite, avec facilité et quelques éléments importants. Donc évidemment, on a mis en place, notamment pour les secteurs fermés, l'habillement, la chaussure, le jouet, évidemment les livres, des outils quelque part qui sont, alors évidemment le click and collect, on se l'est approprié et on l'a diffusé, vous savez que les chambres l'avaient porté très tôt.
Absolument.
Et là, le process de déroulement, vous savez que nous demandons, mais pour l'instant, avec regret, on ne l'a pas obtenu, au minimum, l'ouverture sur rendez-vous des commerces.
Évidemment, c'est dans les tuyaux, effectivement, dans les discussions actuelles.
Mais on l'a demandé. Aujourd'hui, on sait que la communauté entrepreneuriale du MEDEF à la CPME, à l'UDP, nous appuie là-dessus. Mais évidemment, la contrainte sanitaire fait que pour l'instant, le Premier ministre ne nous a pas encore entendus. Voilà. Après, on est sur, évidemment, la mise à disposition de toute une série de marketplaces qui ont été développées parfois de manière régionale. Je pense en Bas-de-Marue, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, à Chaville, etc. On est sur un partenariat plus national avec, effectivement, des outils comme celui de La Poste, qui gère très, très bien les problèmes logistiques. Et l'idée, c'est de permettre... quasiment en ayant un commerçant au bout du téléphone ou en visio, de le guider pas à pas pour qu'il installe son commerce sur ce genre d'outils, sachant qu'on sait très bien que ça ne remplacera pas l'ouverture nécessaire de ces commerces. Mais ça sera 30-40% du chiffre d'affaires. Et évidemment, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est l'appropriation de ces outils, cette transformation, elle n'a pas vocation à être de courte durée. Pour nous, on l'installe dans le temps. Donc, on accompagne ça de formation, avec des webinaires, etc. Et évidemment, on est sur des problèmes de recrutement qui viennent d'être évoqués. Regardez, dans l'industrie, où on a fini de faire 30 000 appels et où on a classé tout ça par item, l'item numéro 1 qui remonte d'entreprise dans cette période-là, c'est la recherche d'emploi et de compétences. On est dans l'industrie. Ça reflète bien ce qui a été dit par mon prédécesseur. Aujourd'hui, il y a encore des pénuries d'emploi dans des secteurs. Alors évidemment, après, on est dans la transition numérique, usine du futur, etc., où là aussi, les jeunes sont les bienvenus parce que souvent, ils ont cette culture, ils sont natifs, finalement, numérique, et beaucoup d'entreprises ont besoin de ça, et le petit commerce, et le mot petit n'est pas péjoratif, le commerce de proximité aussi. Donc, on est aujourd'hui, si vous voulez, sur une vraie demande de transformation dans un délai extrêmement court, des mesures gouvernementales très puissantes annoncées, mais, délai de mise en place, la plupart de tous les outils du nouveau fonds de solidarité seront disponibles au 1er décembre, puisqu'il faut que la loi de finances ait été votée, et rappelons que dans le plan de relance,
allez-y, il y a rapidement,
40% qui viennent de l'Europe. Et l'Europe, ça traîne un peu. Ça va arriver, mais c'est un peu long. On attend la retombée dans les territoires de tout ça. Voilà ce que l'on peut dire.
Merci Pierre Goguet. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je voyais les visages de mes deux autres invités, Isabelle et Philippe, bouger avec une envie de réaction à vos propos. Peut-être Isabelle Saladin, par rapport à ce que vient de dire Pierre Goguet.
Alors, par rapport à ce que vient de dire Pierre, effectivement... l'ensemble des programmes de la CCI est très très concentré sur le terrain et très opérationnel. Et ça, je me permets, je ne connais pas personnellement Pierre, mais je veux dire bravo pour toute cette action. Le point qui m'a fait tilter, mais ça n'a rien à voir avec directement avec les actions de la CCI, bien au contraire. C'est, quand on parlait tout à l'heure d'anticipation, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on oblige justement l'ensemble des acteurs de l'accompagnement à être très réactifs par rapport à une situation. Et le B2C, vulgairement, donc c'est-à-dire le business, les boutiques, les commerçants, sont les premiers impactés. Sauf que ce qu'on ne voit pas arriver, c'est que derrière, il y a le B2B. C'est que derrière, il y a l'ensemble des entreprises à entreprises, dont on ne peut pas tous s'occuper, hein, mais on ne s'occupe pas aujourd'hui, qui est en ralentissement réel, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et donc le deuxième problème arrive derrière. Et il y a des solutions qui sont assez basiques, mais qui ne sont pas mises en place. Là, on part d'un plan de relance plus dur. Je dis juste, attention, anticipons.
N'oublions pas le B2B.
N'oublions pas d'anticiper, surtout la vague qui va arriver.
Et vous, Philippe Dialinas, en conclusion, il nous reste juste une minute. Également, un complément de question de ma part aussi, puisqu'on parle beaucoup des compétences numériques manquantes. Est-ce que c'est aussi votre job à l'APEC d'essayer de trouver des solutions pour les réduire, cette absence de compétences numériques? Parce que c'est là aussi que passera le rebond.
C'est d'identifier effectivement ces gaps-là et pouvoir conseiller les cadres pour se former, pour ceux qui ne le seraient pas, évidemment, de les conseiller justement vers d'autres secteurs qui sont porteurs d'emplois et quels sont les leviers nécessaires, dont la formation en est un. Donc effectivement, le rôle de l'APEC, c'est de conseiller les cadres pour les amener vers effectivement ces compétences. Et un autre point sur les aides, effectivement, au côté entreprise, pour celles qui recrutent, un des enjeux, c'est de comprendre ces aides. Les articuler, les cibler. Moi, employeur, voilà, patron d'une boîte, c'est quelle aide je peux bénéficier, pour qui, pour faire quoi. Ça, c'est aussi un enjeu de l'APEC de conseil pour sécuriser ces recrutements et essayer que les freins soient levés.
Merci infiniment. Merci à tous les trois. Merci Philippe Dialinas. Je rappelle que vous êtes le directeur général joint de l'APEC. Merci Isabelle Saladin. Merci. Vous êtes, quant à vous, effectivement entrepreneur, cofondatrice des Rebondisseurs Français et d'IS Advisor. Et merci Pierre Goguet, président de CCI France. On marque une très courte pause et on se retrouve avec trois nouveaux invités. Et on va également continuer à parler tech et numérique.